parler de ce soir revient avec des analyses sur l'arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle relatif à la requête de la CENI au sujet des difficultés de la mise en œuvre de la loi de programmation des nouvelles provinces. Dans cet arrêt, la Cour ordonne à la CENI d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral. Au gouvernement, elle enjoint de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées afin d'éviter le chaos. Comment analyser cet arrêt de la Cour ? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 9 septembre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à les auditrices et auditeurs.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit public et spécialiste en droit constitutionnel. Il est aussi vice-doyen de l'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, professeur Ngondankoy, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et le professeur Stéphane Nzita, dit Nzita, avec moi dans ce studio, recteur de l'Université chrétienne internationale. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean-Pierre Kiloufia, depuis Kinshasa, qui dit ceci. J'ai deux petites préoccupations. La première est celle de savoir si la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les affaires liées à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et la deuxième question est le fait de demander au gouvernement de prendre des mesures transitoires ne va-t-il pas favoriser le glissement ? Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Et continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Vous le savez, l'actualité en RDC reste dominée par le rendu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la requête de la CENI au sujet des difficultés de la mise en œuvre de la loi de programmation des nouvelles provinces. En effet, constatant l'impossibilité pour la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans le délai légal, la Cour constitutionnelle ordonne à la Commission électorale d'évaluer tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global. Au gouvernement, elle demande de prendre des mesures transitoires pour éviter l'ingouvernabilité des nouvelles provinces créées ainsi que d'y faire régner l'ordre public. On écoute un extrait de l'arrêt de la Cour rendu par son président Benoît Luamba.
La Cour ordonne au gouvernement de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la loi électorale. Enjoint au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accélérer l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces avant toute élection des députés provinciaux et sur toute l'étendue de la République. La Cour affirme le caractère irréversible du processus d'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces concernées par la loi de programmation numéro 15/004 du 28 février 2015. Constate néanmoins la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d'organiser dans les délais légaux, je voulais dire, les dites élections en l'absence d'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces. Ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales.
Les propos du président de la Cour constitutionnelle ont été recueillis par Jeff Ngoy. Du côté de la majorité présidentielle, le PPRD juge l'arrêt de la Cour constitutionnelle très équilibré pour les députés nationaux et secrétaire général adjoint du PPRD. Son parti accepte sans discussion cet arrêt de la Cour qui, selon Ramazani Chadari, ne peut souffrir d'aucune opposition. On l'écoute.
Mon parti trouve que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un arrêt équilibré. Il a montré les difficultés qu'ont rencontrées les institutions et la Cour a indiqué que pour élire les gouverneurs, il fallait 120 jours après démembrement. Les 120 jours sont déjà dépassés.
L'opposition politique estime que cet arrêt de la Cour serait un chèque en blanc qu'on accorderait au chef de l'État pour nommer les hauts fonctionnaires. Comment réagissez-vous?
On ne va pas nommer les gens. On va élire les gouverneurs avant toute élection des députés provinciaux. Dixit la Cour. Mais en attendant qu'il y ait élection, la Cour demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la sécurité. Et je crois que l'arrêt de la Cour, c'est un bon arrêt, parce qu'il tient compte des réalités du pays sur le plan de droit politique et sur le plan logistique et matériel.
L'opposition politique, quant à elle, se dit préoccupée et insatisfaite par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui demande au gouvernement de prendre des mesures transitoires pour faire régner l'ordre public et la sécurité dans les nouvelles provinces issues du démembrement des anciennes. Pour les députés nationaux et présidents du mouvement du Renouveau, la conditionnalité de l'élection des gouverneurs avant toute autre élection telle que recommandée par l'arrêt de la Cour risque d'occasionner le glissement. Écoute Clément Kankou au téléphone de Michel Kifindangoy.
Est-ce que la Cour constitutionnelle serait en train de donner un chèque en blanc au chef de l'État pour nommer des hauts fonctionnaires pour remplacer le gouverneur qui ont été élus pour un mandat de 5 ans? Donc nous pensons que la Cour constitutionnelle n'a fait que mettre à jour l'incapacité de la CENI à faire son travail et aller chercher tout simplement les bouées de sauvetage au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous pensons que la Cour ne peut pas imposer à ce qu'on organise les élections de gouverneurs dans des conditions actuelles. Ça serait tout simplement cautionner le fameux glissement. Quel est le fondement juridique du mandat des députés provinciaux des nouvelles provinces? Même la Cour constitutionnelle a l'obligation de respecter la Constitution comme tout citoyen congolais. L'incompétence et l'amateurisme des membres de ce gouvernement est révélé au grand jour, tout simplement. Parce que pourquoi avoir précipité les démembrements de provinces quand on n'avait pas les moyens pour organiser l'élection des gouverneurs?
Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cet arrêt rendu par la Cour?
Merci beaucoup, madame. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut souligner dans l'arrêt, mais aussi par rapport au processus qui a été initié depuis maintenant plusieurs mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux logiques. Vous avez une logique qui a été dictée par la CENI, et qui a publié son calendrier électoral avec des élections provinciales et locales qui étaient prévues le mois prochain, plus les élections sénatoriales, ainsi que après les élections législatives, ainsi que les élections provinciales. Parallèlement à ça, a été initié un processus de découpage. Et au flux des calendriers qui ont été publiés, il s'est avéré qu'il y a une collision entre les deux agendas, entre l'agenda de la CENI et entre l'agenda du gouvernement congolais par rapport au processus de découpage. Cela donnait une situation assez incongrue où on allait avoir des gouverneurs qui allaient être élus pour quelques jours et puis qui allaient être amenés à démissionner pour faire place à de nouvelles élections. C'était une situation incongrue non seulement au niveau de la logique, mais aussi au niveau budgétaire. Ça veut dire que le gouvernement allait payer déjà pour les découpages tous les moyens qui allaient être mis en place pour les découpages, plus les élections de gouverneurs, et ajouter à ça les moyens qui allaient être débloqués pour les élections provinciales. Cela n'avait aucun sens de pouvoir avoir deux logiques qui se superposent et même qui se télescopent. De là, je crois que la requête, sur ce point de vue-là, la requête de la CENI est tout à fait logique, ou pour essayer de trouver une espèce de porte de sortie par rapport à ces deux processus. Et la porte de sortie par rapport à ces deux processus, malheureusement, donne comme conséquence, c'est-à-dire que met préalablement la question des élections des futurs gouverneurs avant l'élection des provinciaux, ça veut dire l'élection des députés provinciaux et de tout le reste qui s'ensuit. Et ce qui a comme conséquence de pouvoir mettre des préalables par rapport aux élections provinciales. Par ailleurs aussi, il faut aussi souligner que les rapports des commissions qui sont allés faire l'état des lieux des futures provinces, et je crois que ces rapports sont explicites aussi, mettent en exergue et aussi beaucoup de choses dont l'absence d'infrastructures, l'absence des moyens, l'absence des ressources humaines pour pouvoir arriver à ce que ces futures provinces fonctionnent. Donc, de par ce constat, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est tout à fait logique dans le sens où d'abord demande à ce que l'on puisse arriver à d'abord organiser, à mettre en place de nouvelles institutions issues du découpage, et ce n'est qu'après qu'on peut mettre en place les futures provinces. Mais seulement la crainte qui découle de cet arrêt, c'est-à-dire que est-ce que si le gouvernement congolais n'a pas les moyens de pouvoir mettre en place les futures provinces, ça veut dire que nous risquons de ne pas avoir des élections provinciales tant qu'on n'aura pas mis en place les élections avec les nouveaux gouverneurs par rapport aux futures provinces. Et donc c'est ça une des préoccupations majeures que je pense et qui est là et qui est encore posée et pour lequel je ne pense pas qu'on aura encore de solution. Et si je peux encore me permettre encore une chose, c'est que la CENI avait publié quand même son état de besoin et on avait aussi et avec son état financier, ses demandes en matière de budget, on était au niveau de 1,2 milliard, plus ou moins 1,2 milliard de dollars qui était indispensable par rapport à tous les processus. Or, 1,2 milliard, vous connaissez tous le budget du Congo, vous connaissez tous les réserves de l'État congolais et qui sont à 1,8 milliard. Et donc l'État congolais s'est retrouvé dans une incapacité claire de pouvoir non seulement payer le processus électoral, mais aussi assumer les charges de l'État. Donc ici, la Cour inverse la dynamique, demande d'abord à l'État de pouvoir arriver à avoir le contrôle sur les 26 provinces avant de pouvoir procéder aux élections. Alors, les conséquences de cet arrêt, mais je pense qu'on a encore toute la soirée pour en discuter, pour voir un peu quelles sont les conséquences au niveau non seulement du calendrier, mais au niveau des échéances politiques qui doivent venir, notamment l'année prochaine.
Alors, professeur, il y a cet auditeur, Jean-Cyr Kiloufia, qui demande si la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les questions liées à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs.
Ben, vous savez, la Cour constitutionnelle est compétente pour toutes les questions liées à l'interprétation de la Constitution, mais il y a aussi la problématique de la qualité de la personne qui fait une requête auprès de la Cour constitutionnelle. Je pense que la CENI n'avait pas qualité pour pouvoir demander les interprétations des dispositions de la loi, mais néanmoins, elle était compétente pour toute une série d'autres questions liées notamment à la question du calendrier électoral, puisque ça, c'est dans ses compétences. Et donc, la Cour constitutionnelle est tout à fait compétente sur les questions du calendrier, mais elle n'est pas compétente pour ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la Constitution. La Constitution, sur ce point de vue, est tout à fait claire à ce sujet.
Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. Oui. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit public et spécialiste en droit constitutionnel. Vous êtes aussi vice-doyen de l'enseignement à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Professeur, quelle est votre analyse par rapport à cet arrêt rendu par la Cour?
Merci, madame, de la question. Mon analyse sera nécessairement juridique. Sur le plan strictement juridique, je constate que la CENI a saisi la Cour constitutionnelle de deux chefs de demande. D'abord, l'interprétation de deux dispositions de la loi. D'une part, la loi de programmation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces, et d'autre part, la loi électorale de 2006, telle que modifiée jusqu'à ce jour. Ça, c'est le premier chef de demande. Le deuxième chef de demande, c'est un avis sollicité par la CENI de la Cour constitutionnelle sur le processus électoral. Alors, la question juridique se pose, c'est d'abord de savoir si la Cour est compétente par rapport à ces deux chefs de demande, et ensuite si la demande de la CENI est recevable. Donc, du point de vue strictement juridique, il faut dire que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour interpréter les dispositions légales. Tout simplement parce que l'article 161 de la Constitution lui donne plutôt la compétence d'interpréter la Constitution et pas les lois. Les lois sont élaborées, adoptées par le Parlement. Il n'y a que deux sortes d'interprétations possibles. Soit l'interprétation authentique, celle qui vient de l'auteur de la norme elle-même, lui-même, soit une interprétation judiciaire qui vient des cours et tribunaux, mais alors compétents en la matière. Dans les cas d'espèce, la compétence de la Cour constitutionnelle étant d'attribution, c'est-à-dire se limitant à l'interprétation de la Constitution, elle ne peut pas aller au-delà d'une autre norme pour l'interpréter. Deuxièmement, par rapport au chef des demandes relatives à la vie, la Cour constitutionnelle congolaise, telle qu'elle est conçue, elle n'est pas une juridiction pour donner des conseils aux institutions. On ne peut pas, contrairement à la section de législation de la Cour suprême de justice qui a existé il y a quelques temps, lui demander un avis quelconque sur n'importe quel objet, parce que, tout simplement, la Cour ne peut rendre que des arrêts. Et là, la Cour a très bien rappelé cela sans en tirer toutes les conséquences. En même temps, elle s'est déclarée incompétente et à bon droit pour interpréter des lois. En même temps, elle a dit qu'elle n'a pas le pouvoir de donner des avis, mais aussi elle ajoute, non, mais en tant que pouvoir régulateur de la vie politique, des institutions politiques, je peux néanmoins pas donner des avis, mais prendre des arrêts, se traduisant par des injonctions pratiquement qu'elle donne au gouvernement, à la CENI, etc. De ce point de vue, il me paraît que c'était un glissement, je pense que le terme est à la mode. Je crois que la Cour, de ce point de vue, a statué ultra petitant, parce que je ne vois nulle part dans la Constitution où on lui donne le pouvoir d'être le régulateur de la vie politique et des institutions politiques. Et d'autre part, il n'est pas dit dans la loi organique portant organisation et compétences de la Cour qu'elle peut donner des avis. Dans le cas d'espèce, je pense que la Cour est allée au-delà pour pouvoir donner des injonctions aux institutions, violant ainsi le principe de la séparation du pouvoir d'une part, et d'autre part, se substituant au président de la République qui, au terme de l'article 69 de la Constitution, est la seule institution qui, par son arbitrage, veille au bon fonctionnement des institutions.
Et donc, si je vous comprends bien, professeur Ngonda, la Cour constitutionnelle est allée au-delà de ses attributions.
Bien sûr, d'une part, elle reconnaît qu'elle n'est pas compétente, et d'autre part, elle se permet quand même de donner des injonctions au gouvernement sur pied d'un fondement juridique qui n'existait pas, puisqu'elle dit qu'elle utilise son pouvoir de régulation de la vie politique. Où est-ce qu'elle trouve ce pouvoir? Je voudrais faire remarquer ici que contrairement, par exemple, à la Cour constitutionnelle béninoise, où la Constitution béninoise, à l'article 114, confère effectivement et clairement à la Cour constitutionnelle ce pouvoir-là, notre Cour n'a pas cette compétence. Elle ne peut pas tirer sa compétence de sa propre compétence, parce que précisément, elle n'a pas la compétence de sa compétence. C'est une institution comme les autres. Elle est instituée, et parce qu'elle est instituée, elle dispose d'une compétence limitée. Donc, de point de vue là, juridiquement parlant, je ne comprends vraiment pas ce son avant de la Cour, et ça paraît plutôt comme un précédent fâcheux, de mon point de vue.
Alors, il y a cet auditeur, professeur Ngondanko, et maître Magloire Baloutianda, qui nous écrit depuis Lubumbashi, qui dit ceci, pour ce qui est des mesures transitoires, pourquoi nos vénérables sages n'ont pas dit clairement de quel genre de mesures il s'agit? En se taisant, on laisse au gouvernement toute latitude d'agir, y compris dénommer en attendant ces dites élections.
C'est toute la problématique des non-dits qui se trouve dans cet arrêt. D'une part, qu'est-ce qu'on appelle pouvoir régulateur? D'autre part, qu'est-ce qu'on appelle force majeure, irrésistible et insurmontable? Et puis, bon, c'est la question posée par notre auditeur. Que signifie la mesure exceptionnelle transitoire? La Cour ne l'a pas précisé, laissant ici la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations. D'ailleurs, sur ce point-là, on peut même dire que lorsque la Cour elle-même dit que l'absence d'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales est un cas de force majeure irrésistible et insurmontable, c'est tout à fait contestable. D'abord parce que pour qu'un cas de force majeure existe, il faut qu'il y ait un événement d'abord imprévisible, donc personne ne peut avoir prévu ça. Deuxièmement, un événement insurmontable, comme la Cour l'a dit, mais est-ce que dans les cas d'espèce, on ne peut pas élire les bureaux des assemblées provinciales? Et troisièmement, un cas de force majeure se détermine notamment par son caractère involontaire.
Merci.
Arrive sur la volonté d'une personne.
Merci, professeur Ngondanko, et professeur Stéphane Nzita, dit Nzita, recteur de l'Université chrétienne internationale. La Cour est allée au-delà de ses attributions. C'est votre point de vue aussi?
Kelly, vous savez, nous avons ici un problème important, que les décisions de la Cour sont irréversibles et sans appel. Donc nous perdons le temps à discuter sur le sexe des anges. La question ici aujourd'hui, nous sommes devant une impasse des élections qu'on doit avoir. Est-ce qu'il dialogue ou pas dialogue? Est-ce qu'on va avoir nomination de gouverneur ou bien élection? Eh bien, la Cour est partie, du moins, tout droit au but. Elle a déclaré son incompétence là où elle se sentait incompétente. Elle a déclaré là où elle est compétente. Elle a quand même donné, elle a ordonné et puis elle a enjoint. Et vous savez que la CENI, on est venu.
Est-ce qu'elle a le droit de donner des injonctions?
Je pense que je ne veux pas déranger les auditeurs qui nous écoutent, parce que nous pouvons, ce qu'on va décider maintenant ne peut rien changer. Ces décisions sont sans appel. Donc, à quoi sert aller encore? Mais je pense que dans les cas échéants, nous avons une décision sans appel, qui est celle que nous avons devant nous, et la question, comment allons-nous arriver vers le but? Le Congo veut être un état de droit, veut aller aux élections, et nous avons vu la démarche de la CENI qui a donné une date, et qui change la date, et qui ainsi de suite. Il y a des problèmes qui se sont posés au cours du temps. Maintenant, je pense que ce que la Cour a fait, c'est de nous donner des couper les poires en deux, et de plus qu'on va passer le temps et réfléchir, on comprendra que c'était une décision bien réfléchie, bien calculée, et ceux qui dansaient hier ne vont pas danser demain. Et parce qu'ils sont partis au milieu du village, et dans les décisions, on demande au gouvernement de ne pas dire qu'on n'a pas 2 millions pour avoir des élections. On dit, écoutez, je vous enjoins de mettre les moyens à la disposition de la CENI. Et la CENI qui nous disait qu'il avait de l'argent, et on a senti qu'à un moment, la CENI et le gouvernement étaient un peu presque ensemble. On dit, écoutez, maintenant, aller dans toute indépendance et impersonnalité. Donc, c'est là déjà, je pense que nous avons désormais une nouvelle donne dans les élections au Congo, et c'est le temps de voir, de comprendre que finalement, l'agenda qu'on cherchait pour les dialogues est là. Allons maintenant avec cette décision de la Cour pour savoir comment nous, tous parties prenantes, allons-nous en prendre pour arriver à donner aux Congolais ce dont ils ont besoin, c'est quoi justement la capacité d'avoir leur destin entre leurs mains au lieu de continuer de mesures transitoires. Eh bien, c'est là toute la problématique. Maintenant, le reste, nous allons voir, et quand on parle de mesures transitoires...
Est-ce que la Cour n'est pas restée floue par rapport à ces mesures?
Bon, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté, mais qui n'est pas illogique, parce que ici la Cour est partie, d'abord les Congolais voulaient qu'elle tranche en disant glissement sans glissement, élection pas élection. Non, la Cour est partie dire les droits, et les droits est dit. Et je vous assure que le plus que nous allons examiner cet arrêt, le plus que nous comprendrons que ces experts congolais, qui certains d'entre eux ont déjà participé au premier démembrement des provinces, ont vu ce qu'il fallait être, ont pensé que désormais il faut qu'on arrive à autre chose. Donc les 21 nouvelles provinces, ils disent qu'il y a un caractère irréversible dans ce processus, donc finalement on ne peut pas penser qu'on peut encore dire, écoutez, on va rentrer aux 11 provinces, on va avancer ou pas, mais maintenant on a presque tranché. La Cour a dit les droits.
C'est-à-dire organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées avant les provinciales. Est-ce qu'on ne tombe pas vers le glissement?
Je ne pense pas que...
Parce que le gouvernement n'a pas des moyens pour l'organisation des élections de ses gouverneurs et vice-gouverneurs.
Quel est le verbe utilisé parlant de moyens? C'est que enjoindre. Quand on parle en droit, qu'on vous enjoint, on vous demande de faire expressément. Je vous ordonne expressément. Donc, le gouvernement n'a plus vraiment le temps de nous expliquer autre chose. Il y a la Cour. Et maintenant, quand quelqu'un arrive à ne pas obtempérer à la décision de la Cour constitutionnelle, eh bien, on va en tirer les conséquences. Donc, je pense que c'est quelque chose de très sérieux qui est arrivé. Il est important que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour savoir comment allons-nous respecter les lois de notre pays et respecter le peuple congolais qui est, après tout, les propriétaires du pouvoir congolais.
Alors, on va prendre, merci professeur Stéphane Dinzita, professeur Bob Kabamba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Biamungo Rukuba de la ville province de Kinshasa. Cet arrêt ne vient-il pas contourner le calendrier global publié par la CENI en février dernier, qui d'ailleurs ne parle pas d'élection des gouverneurs des 26 provinces nouvellement créées, cautionner ainsi le glissement? Pourquoi la CENI a-t-elle abandonné la logique d'un dialogue tripartite, majorité, opposition, société civile, pour un calendrier consensuel qui, à mon avis, satisferait tout le monde? Si les entreprises pareilles sont de nature à favoriser une petite partie des personnes, notamment par un glissement au-delà de 2016, nous risquons d'aboutir à une suite apocalyptique mettant en péril notre jeune.
Alors la qualité n'est pas très très bonne. Professeur, est-ce que vous avez suivi la réaction de cet auditeur?
Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question de l'auditeur, mais je pense avoir deviné de par sa conclusion. Il y a deux choses, hein. Il y a deux logiques, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait une logique liée à la loi électorale qui a été publiée, il y a la logique aussi du découpage. Et la Cour constitutionnelle vient un peu de régler cette question-là. Mais seulement les conséquences de la Cour constitutionnelle de cette décision, c'est-à-dire mettre en place d'abord les 26 provinces avant d'aller aux élections provinciales, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les défis et les problèmes liés au découpage sont énormes. Et donc il faut que le gouvernement congolais arrive déjà à mettre en place ces 26 provinces, enfin les 21 provinces pour qu'on en ait les 26, pour qu'il puisse y avoir un minimum de fonctionnalité et un minimum de continuité des services publics dans ces nouvelles provinces. Et de ce fait-là, du fait déjà que le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir le faire, ça veut dire de ne pas prendre du temps pour mettre en place les 21 provinces. Prendre du temps pour mettre en place les 21 provinces, fatalement, va découler du fait que les élections provinciales ne pourront pas avoir lieu, donc les élections provinciales telles qu'elles ont été prévues par la CENI n'auront pas lieu avant que le découpage ne soit effectif, avant que les institutions ne soient mises en place, avant qu'on ait un peu tous ces processus-là qui soient mis en place. La conséquence, peut-être que la CENI, on va voir ce que la CENI va proposer dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour essayer de résoudre les différentes questions que l'auditeur a soulignées, notamment la question du fin du mandat du président actuel avec les élections législatives et présidentielles de l'année prochaine. On verra ce que la CENI va essayer de mettre comme calendrier en place pour respecter d'une part cette constitution. Est-ce que la CENI va privilégier les élections provinciales ou bien la CENI va-t-elle privilégier les élections présidentielles l'année prochaine? Donc on va voir un peu par rapport à ce que, sur base de la réaction de la décision de la CENI, de la Cour constitutionnelle, on va voir ce que la CENI va pouvoir maintenant répondre à ces différentes demandes et ces différentes injonctions de la Cour constitutionnelle. Mais aussi le gouvernement congolais, pour que le gouvernement congolais débloque les moyens. Mais je sais très bien, nous connaissons tous le budget du Congo, nous savons très bien qu'il y a au niveau international une crise, et donc je me pose moi la question de savoir comment le gouvernement congolais va trouver des moyens pour permettre justement à ce que, si c'est les élections présidentielles qui sont privilégiées, ou si c'est les élections provinciales qui sont privilégiées, quelle est maintenant l'option que la CENI va mettre sur la table? J'imagine aussi que la CENI ne va pas décider toute seule de ça, sans qu'il puisse y avoir un minimum de consensus avec toutes les parties prenantes, comme on le sait. Parties prenantes, ça veut dire partis politiques, toutes les institutions qui participent aux différentes concertations de ces parties prenantes. Donc, la balle, je pense que pour l'instant, est du côté de la CENI, et qu'on peut espérer que dans les prochaines semaines, la CENI va pouvoir, sur base de cet arrêt, faire des propositions à la classe politique, et pour que l'on puisse arriver non seulement à respecter les délais constitutionnels, mais aussi à avoir, comme la Cour l'a dit, une continuité du service et de l'État dans ces futures provinces.
Puisque, professeur Bob Kabamba, il faut attendre que le gouvernement dispose des moyens, disponibilise les moyens pour que la CENI organise ses élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et la Cour demande au gouvernement de prendre des mesures transitoires pour éviter l'ingouvernabilité des nouvelles provinces. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement pourrait nommer des gouverneurs? Est-ce que c'est une possibilité?
Donc, de manière très claire, je préfère vous dire que le gouvernement congolais ne peut pas nommer de gouverneurs. Ça, c'est tout à fait exclu par la Constitution. Donc, la Constitution dit sans ambiguïté que les gouverneurs doivent être élus. Et donc, le gouvernement ne peut pas nommer des gouverneurs. J'imagine que sur base de cet arrêt, Le gouvernement congolais va essayer de réfléchir quelles sont les mesures transitoires, provisoires, exceptionnelles qu'ils vont essayer de prendre, mais il exclut, je pense que il exclut que le gouvernement puisse penser nommer des gouverneurs, puisque ça c'est anticonstitutionnel, et je pense même que ces nominations pourraient être attaquées à la Cour constitutionnelle, qui ne pourra que annuler ces nominations. Il y a des assemblées provinciales qui sont mises en place. J'imagine que le gouvernement est au courant et suffisamment outillé pour savoir que la nomination du gouverneur est tout à fait exclue. Et l'arrêt d'ailleurs est très clair, parle plutôt de mesures exceptionnelles pour assurer la continuité de l'État. Ne parle pas de l'élection, de la nomination de gouverneur. Ça veut dire que ça ne peut pas arriver à ce qu'il y ait nomination de gouverneur. Ça n'empêche que le gouvernement peut prendre des dispositions qui permettent à ce que les services puissent continuer. Mais je ne suis pas dans le chef du gouvernement pour savoir ce qu'ils vont décider dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois.
Merci, professeur Bob Kavamba. Professeur plutôt Paul Gaspard Ngondankoy, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient encore une fois de Kinshasa.
Maître Pepe Mikwa, je vis à Kisangani, mais je suis actuellement à Kinshasa. Je pense pour ma part qu'une transition politique s'impose entre l'opposition et la majorité, sauf s'il y a aveuglement de part et d'autre. Le réalisme pousse aujourd'hui à aller au dialogue et que l'opposition entre au gouvernement. C'est seulement à ce truc que les opposants qui seront au gouvernement déposent ces clés de responsabilité comme pendant la période de 1+4, vont enclencher la dynamique électorale et orienter les décaissements prioritaires du gouvernement vers les élections. Seulement que ceux qui seront au pouvoir ne puissent pas être des candidats aux futures élections.
Professeur Ngondankoy, la transition s'impose pour décompter la situation.
Mais franchement, madame, avec cette question, je ne suis pas du tout dans mes plans-bandes. Pour moi, la question n'est pas celle de la portée de l'arrêt de la Cour sur le processus électoral ou sur la vie politique de la nation. Là, n'est pas la question chômage, parce que les appréciations vont diverger d'une personne à une autre. Moi, la question principale, c'est de savoir, du point de vue strictement juridique, du point de vue constitutionnel, la Cour pouvait-elle consacrer ce genre de solution? Je pense que ça, c'est la question fondamentale. Et du point de vue d'une juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une demande, de plusieurs demandes, elle se pose préalablement deux questions. Premièrement, suis-je compétente pour pouvoir statuer? Deuxièmement, la requête telle qu'elle vient, est-elle recevable? Je crus comprendre que, à ces deux questions, la Cour a répondu par la négative, même si par la suite elle a nuancé. Elle dit qu'elle n'est pas compétente pour interpréter les dispositions légales. Et là, elle est tout à fait dans le bon droit. Deuxièmement, elle dit qu'elle n'a pas été instituée pour donner des avis, et en l'occurrence, un avis sur le processus électoral. Et elle a tout à fait raison. Mais elle recourt à un argument qui n'existe dans aucun texte en disant, en fonction de mon pouvoir de régulation, j'ordonne au gouvernement, j'ordonne d'injonction à la CENI de faire ceci ou cela. Or, comme je l'ai souligné avant, la compétence de la Cour constitutionnelle est d'attribution. Constitutionnelle ou légale, on peut le concéder. Mais dans les cas d'espèce, je ne vois pas où la Cour dispose du pouvoir de réguler la vie politique, les institutions politiques. Je rappelle qu'il n'y a que l'article 69 de notre Constitution qui parle de la régulation de la vie politique ou des institutions politiques et de la continuité du service public. Et cette compétence est dévolue exclusivement au président de la République. Une juridiction ne peut pas se réveiller un matin et dire « bon, je m'attribue cette compétence ». Elle est là quand même instituée par le souverain primaire qui a adopté la Constitution, ensuite par le Parlement qui a organisé son instance. Seul, pour l'instant, l'article 114 de la Cour de la loi de la Constitution béninoise a dit de manière claire que sa Cour constitutionnelle est le pouvoir régulateur des autres institutions. Chez nous, on peut me chercher une disposition constitutionnelle express qui donne à la Cour constitutionnelle, pas plus qu'à tout le pouvoir judiciaire de manière générale, ce pouvoir de réguler la vie politique. Il est clair que lorsque la Cour annule, par exemple, une loi, un acte réglementaire, il y a une conséquence sur le fonctionnement des institutions politiques. Mais la Cour régule de cette manière la vie politique à travers une compétence bien précise, le contrôle de constitutionnalité des lois. Mais elle ne peut pas se réveiller un matin comme ça et dire « non, j'ai le pouvoir de réguler la vie politique, etc. » Puisque là, c'est une auto-attribution d'une compétence qui n'existait pas. Or, c'est là où se trouve le danger du point de vue de l'avenir, de la jurisprudence constitutionnelle qui va venir, du point de vue de l'objectivité de la science juridique que nous enseignons par ailleurs. Bon, je ne discute pas sur la portée politique, sur ceci, ça ce n'est pas vraiment mon dada.
Justement, c'est la question que j'allais vous poser, professeur Ngondakoy, puisque l'arrêt a été rendu par la Cour constitutionnelle. On sait que les arrêts de la Cour ne souffrent d'aucune opposition. Qu'est-ce qu'on fait? On va avec?
Ah bon, voilà. C'est ça le problème. Je suis bien conscient de cela. La Cour contrôle tout le monde, sauf elle-même. Donc, qui contrôlera le contrôleur? Je suis parfaitement conscient de cela. Mais ce qu'il faut dire à tout prix, c'est que dans un pays où nous prenons le constitutionnalisme, où nous voulons un état de droit constitutionnel, la vérité, je vous dis, ne se trouve pas d'un côté, pas plus du côté de la Cour que du côté de nous, professeurs d'université. Nous devons travailler dans un dialogue permanent, interpréter les dispositions constitutionnelles pour que nous puissions les avoir toutes en tête de la même manière. La Cour peut bien sûr imposer son autorité parce que ses décisions ne sont pas critiquables, mais par ailleurs, on ne peut pas interdire que nous, professeurs d'université, nous puissions critiquer son œuvre, parce que demain, son œuvre peut être réformée par une autre composition. Or, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est d'avoir une stabilité dans la jurisprudence et ne pas nous produire des arrêts qui vont compliquer le problème demain.
Merci.
Voilà le véritable problème.
Merci, professeur Ngondakoy. Professeur Zita Dindita, on a aussi une réaction pour vous, encore une fois, qui nous vient de Kinshasa.
C'est Alain Bolodjo, j'appelle depuis Kinshasa également. J'estime de mon point de vue que cette Cour ne pouvait pas statuer autrement, étant donné qu'il y a un problème qui s'est posé déjà au niveau de la conception de la Constitution. Dès lors que la Constitution n'a pas tranché sur la démarche à suivre en ce qui concerne le nouveau gouverneur, quoi de plus normal que la Cour constitutionnelle se déclare incompétente par rapport à cette question. Partant de cette situation, j'estime de mon point de vue que la nomination reste la seule voie pour que nous ayons le gouverneur qui n'ont qu'un mandat de 5 mois, contrairement à ceux qui seront élus après les élections des députés provinciaux.
Faut-il nommer le gouverneur? On a suivi le prof Bob qui a dit tout à l'heure dans une intervention que ça serait violer la Constitution si aujourd'hui le gouvernement décidait de nommer les gouverneurs.
On ne peut pas nommer un gouverneur au Congo aujourd'hui avec la loi que nous avons. La Constitution interdit ça d'une manière formelle. Donc, on perd le temps pour rien. Je pense que nous avons un problème qu'il faut résoudre. Je voulais rentrer là-bas. La Cour, en disant ceci, dit voilà, je comprends qu'il y a incompétence quant à ceci, cela, mais j'ai déclaré, et c'est les voix compétentes pour connaître le deuxième chef de cet arrêt-là. Donc, il dit voilà, elle constate qu'il y a un dépassement. Le gouvernement a donné 120 jours. Pour installer les nouvelles provinces, ce n'est pas arrivé. Elle affirme aussi qu'il y a un caractère irréversible du processus d'élection des gouverneurs, ce qui est clair là-bas donc, et du vice-gouverneur des provinces est concerné à partir de ce qui est donné là-bas. Encore constate qu'il y a cas de force majeure. Donc là-bas, la cour était au milieu du village. La question n'est plus maintenant de savoir est-ce qu'on va nommer ou pas, ça c'est non-événement. Comment allons-nous arriver à élire ces nouveaux gouverneurs? Et qu'importe, 2 jours ou 5 mois, comment les élire? Parce qu'il faut élire. Et là, c'est ça notre question. Nous proposons aux autres que nous avons dit dans cette place, nous sommes venus ici, à Serralokabi, par 3 fois, on a dit, on ne peut pas avoir trop d'élections quand on n'a pas de l'argent. On a demandé qu'on puisse grouper ces élections-là pour qu'on les fasse en 2016. Toutes les élections en 2016. Eh bien, nous sommes là exactement ce que nous avons dit. Eh bien, pourquoi ne pas nous asseoir autour d'une table et dire, voilà, nous devons obéir à la loi, c'est ça que nous voulons, un état de droit. Maintenant, comment nous allons grouper ces élections-là pour que nous puissions respecter d'abord et notre peuple qui demande des élections, qui demande les contrôles du destin de son pays, et comment nous allons arriver aussi à respecter nos propres lois et les échéances que nous avons. Donc, la question, c'est justement là-bas. Qu'allions-nous faire lors de notre dialogue qui s'avère incontournable?
Mais aussi, professeur, puisque les provinces, nous sommes passés à 26 provinces, il y a des provinces qui n'ont pas de gouverneur. Qu'est-ce qui va se passer avant l'élection du gouverneur?
Et c'est là où la Cour était encore vraiment sage en disant, écoutez, en comprenant cela, il dit, on demande que le gouvernement prenne des mesures. Quelles sont ces mesures-là? Écoutez, vous savez,
quelles pourraient être ces mesures selon vous?
Voilà, la première que je pense. Vous savez que le Congo a souffert de la destitution de ses chefs naturels. Donc, vous voyez les chefs de groupement, les chefs de chefferie, qui sont jusqu'à présent les vrais chefs de notre pays. Je propose à ce moment-là, si nous pouvons avoir, comme en Angleterre, la Chambre des Lords. Donc, il y a des politiciens professionnels et il y a des politiciens qui seront des gens qui vivent avec le peuple, les vrais chefs traditionnels qui sont là. Eh bien, comme ça, on va avoir dans toutes ces provinces-là une assemblée bifaçale, si vous voulez, qui aura les représentants des peuples qui sont là, les chefs de groupement, eh bien, ces gens-là savent qui ils peuvent voter comme leur gouverneur. Ils connaissent les gens qu'ils dirigent, ils connaissent leurs enfants, même ceux qui sont partis en Europe, qui sont restés à Kinshasa, partout, ils les connaissent. Voilà ce que je pense. C'est ces mesures-là qui ne sont pas prévues dans la Constitution, peut-être, ou dans la loi, mais voilà, c'est la tue qu'on nous donne par la Cour qu'on peut les faire. Autrement aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on ne lui a pas allé aux élections sans avoir identifié les Congolais. Donc, qu'est-ce que nous ferons pour avoir que les Congolais, rapidement, on arrive à l'état civil de chacune des communes, chaque secteur, qu'on ait une carte pour un Congolais. Bon, peut-être qu'on peut ordonner même qu'on puisse avoir, même si qu'on paye $1 pour avoir la carte, qu'on connaisse qui est le Congolais. Parce qu'on ne va pas aux élections aussi en excluant les nouveaux majeurs, impossible, ou bien les Congolais à l'étranger qui doivent aussi voter. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est là où, on en demande notre sagesse, d'une manière avec beaucoup de scrupules, qu'on arrive à trouver une solution. Et c'est là le dilemme pour le moment.
Merci, professeur Stéphane Ndizita, professeur Bob Kabamba. On va devoir conclure parce qu'il nous reste 3 minutes pratiquement pour mettre fin à cette émission. Comment vous en prévoyez la suite du processus électoral en RDC?
Merci pour la question et pour la conclusion. Je pense que l'arrêt de la Cour constitutionnelle renvoie la balle au gouvernement et à la CENI. Je pense que la CENI va, dans les prochains jours, certainement essayer de répondre à cet arrêt, non seulement la CENI, mais aussi le gouvernement. C'est-à-dire que dans les prochains jours, nous espérons à ce moment-là avoir plus de lumière pour savoir ce que la CENI va décider. Est-ce qu'elle va privilégier les élections provinciales ou est-ce qu'elle va privilégier les élections présidentielles et législatives en 2016? Alors, cette décision dépend de la CENI en fonction de ce contexte, de cet enjeu, pour savoir est-ce qu'on privilégie l'alternance ou bien on privilégie autre chose. Et de là aussi, survient aussi la question du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va essayer quand même de pouvoir trouver les moyens de faire un choix entre les élections provinciales et les élections présidentielles? Je pense que dans les prochains jours, nous serons fixés assez rapidement sur la suite des événements suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Merci professeur Bob Kabamba, professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Ça sera aussi votre conclusion. Le processus électoral est-il en danger?
Pour ma part, je dirais en conclusion, Madame Telly, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est un précédent fâcheux. D'abord parce que la Cour, après s'être déclarée incompétente, et après avoir déclaré que, après avoir constaté qu'elle n'est pas compétente pour examiner, pour donner un avis, elle a tout de même outrepassé cela en donnant des injonctions aux autres institutions de la République, se fondant pour cela sur un pouvoir qui ne tient ni de la Constitution, ni de la loi organique. De ce point de vue-là, ça me paraît vraiment un précédent fâcheux.
Merci, professeur Ngondankoy, professeur Stéphane Ndizita. Votre conclusion?
Je pense qu'on ne peut pas conduire les Congolais dans une erreur. La Cour n'a pas donné la chance à la CENI de décider quelle élection avoir. Elle ordonne, en conséquence, la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier. Tout.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu et Alain Hung, sous la supervision de Pelle Équipe et la Mondo. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la prise de son. Au micro qui l'écoutait, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocopie.net, bande suite de programmes sur la fréquence de la paix.